Bien, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans Hébreux chapitre 13. Nous arrivons dans notre étude dans cette épître, maintenant au dernier chapitre, le chapitre 13. Et toutes les autres études sont en ligne si quelqu'un veut se rattraper sur les autres études. Mais nous arrivons maintenant au bout de cette épître. Et mon texte aujourd'hui est parti du verset 1 jusqu'au verset 4. Et je voudrais vous parler de l'amour parmi les croyants. Il y a un amour du monde, un amour mondain, mais ce que nous voyons ici, c'est en contraste avec ce que le monde appelle l'amour. Il y a un amour de l'Église de Jésus-Christ. Et Jean, dans son épître, nous a averti de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire, si nous voulons suivre les principes et les règlements du monde en ce qui concerne l'amour ou bien ce que c'est de s'aimer, aimer les uns les autres, nous aurons toujours tort. Mais l'amour dont la Bible parle, qui existe entre ceux qui sont membres du corps de Christ, n'est pas un amour naturel. C'est un amour spirituel, c'est un amour qui provient de la grâce de Dieu dans les cœurs de ceux que Christ a rachetés et que Dieu a élus. Et l'amour du monde va passer comme le monde passe. Et l'amour du monde est basé, fondé sur la convoitise. S'il y a des gens qui s'attendent dans le monde, et ils appellent ça l'amour, même dans un foyer. Mais Christ n'y est pas, et la grâce de Dieu n'y est pas, donc tout ce qu'on peut dire d'un tel amour, c'est que ce n'est rien d'autre que la convoitise, c'est-à-dire une personne qui convoite l'affection de l'autre et qui cherche à avoir l'affection de l'autre, et donc agit dans ce sens, pour avoir l'amour de l'autre. Mais ce qui concerne l'amour de Dieu est sans condition. Donc, ici dans mon texte, dans Hébreux 13, du verset 1 au verset 4, nous avons ici, premièrement, ce que c'est l'amour fraternel, dans les versets 1 à 3. Et puis, dans le verset 4, nous avons représenté l'amour conjugal, c'est-à-dire entre mari et femme. Et tout cela, c'est la grâce de Dieu qui fait à ce que ceux qui sont en Christ ont cet amour. C'est pourquoi c'est écrit dans le verset 1 d'Hébreux 13, « Persévérez dans l'amour fraternel ». On ne peut pas persévérer dans quelque chose qui n'existe pas d'abord. Donc, ici, ce n'est pas en train de dire qu'il faut avoir l'amour fraternel, parce que cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, ça vient de son esprit, ça vient de sa grâce, c'est le fruit de son esprit. Mais là où il y a cet amour qui est donné par la grâce de Dieu. Donc nous avons ici l'instruction de persévérer dans cet amour fraternel. Et c'est ici que nous voyons l'aspect de cet amour fraternel, parce que ce n'est pas à nous de choisir, surtout dans le corps de Christ, ceux que nous allons aimer et ceux que nous allons laisser, non. N'oubliez pas l'hospitalité, c'est écrit, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, c'est-à-dire des messagers de Dieu, sans le savoir. Souvent, quand il y a d'autres qui entrent dans nos assemblées, dans nos communautés, et on ne sait pas d'où ils viennent, je me demande si nous réfléchissons sur le fait que c'est Dieu qui envoie chacun. Et pour des raisons que Dieu lui-même connaît, comme dans le passé, certains ont logé des anges sans le savoir. Et puis aussi, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi, notons, vous-même dans un corps. Donc c'est évident ici que les instructions que nous sommes en train de lire appartiennent au corps de Christ, à l'Église de Jésus-Christ, dont les membres se diffèrent l'un de l'autre et de différentes races et de différents aspects de société, mais tout de même formant un seul corps. Voilà ce que nous devons alors considérer. Comment persévérer dans cet amour fraternel? C'est seulement la grâce de Dieu qui permet à ce que des pécheurs habitent ensemble, que ce soit dans le foyer ou bien que ce soit dans l'assemblée. Nous sommes tous des pécheurs. Et le fait que nous puissions nous entendre et être d'accord sur, non seulement sur la doctrine de Christ, mais d'accord aussi les uns avec les autres, ça c'est une œuvre de la grâce de Dieu. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Donc, c'est le premier aspect ici de l'amour parmi les croyants que nous voyons expliquer ici. Et puis, dans le verset 4, il s'agit là de l'amour conjugal, c'est-à-dire dans le mariage. Et là, nous lisons que le mariage soit honoré de tous. Il y a un principe de mariage qui est donné dans la Bible, qui s'applique à tous, qu'ils soient croyants ou pas, mais particulièrement aux croyants. Pourquoi? Parce que le mariage représente l'union qui existe entre Christ et son Église. Christ étant l'époux et l'Église l'épouse. Donc, que le mariage soit honoré pour cette raison. Cela remonte jusqu'à Adam et Ève, la définition du mariage qui est donnée en Genèse chapitre 2, où la femme devait quitter ses parents et l'homme ses parents et s'attacher à la femme et les deux deviennent une seule chair. Ça, c'est la définition du mariage qui existe depuis le début. Mais nous voyons que dans le monde, de plus en plus, le mariage n'est pas considéré. Et cela encore démontre le contraste entre ce que le monde appelle l'amour ou le mariage et ce que Dieu définit comme le mariage, surtout parmi les croyants, les membres de l'Église de Christ. Donc, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je dirais que si ce n'était la grâce de Dieu et le sang versé du Seigneur Jésus-Christ, on devait tous être considérés et jugés comme impudiques et adultères. Parce que nous sommes impudiques et adultères de nature, mais qu'est-ce qui nous lave du péché? D'où est notre salut pour que nous ne soyons pas jugés avec le reste? je dois dire, c'est uniquement la croix, c'est uniquement le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et pour sa gloire et son honneur, donc nous dirigeons nos pas dans cet amour qu'il nous donne, que ce soit dans l'Église, avec les autres membres de l'Église, ou bien que ce soit même dans notre foyer. Donc revenons ici dans les versets 1 à 3 pour considérer, pendant le temps que nous avons, l'amour fraternel, où l'auteur écrit ici que l'amour fraternel continue. Voilà le sens de ce mot persévérer, que ce que Dieu a débuté en donnant cet amour, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et c'est aussi vrai en ce qui concerne notre amour les uns pour les autres. Tout cela remonte à Dieu. Donc, que cet amour fraternel que Dieu lui-même a initié continue. L'écrivain ici utilise un mot grec ancien. Et en grec, c'est le mot Philadelphie. Nous avons une ville nommée ainsi ici aux États-Unis, Philadelphie. Mais je dois dire que c'est loin d'être une ville d'amour. Il y a beaucoup de crimes et beaucoup de dégâts dans cette ville, mais quand même, quelqu'un qui a nommé cette ville avait en vue l'idée que les gens pouvaient se réunir et vivre en harmonie. Voilà le but de nos politiciens, voilà le but de beaucoup de prédicateurs, à ce que tout le monde puisse s'entendre. Mais c'est un mot spécial. Ici, ça suppose qu'il y a déjà un amour fraternel, surtout parmi ceux qui sont enfants de Dieu par sa grâce. Et donc, l'appel ici, c'est simplement de continuer dans cette voie d'amour. Dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 3, voilà les instructions que nous recevons de la part de l'apôtre Paul. Et surtout, cette épître aux Éphésiens est écrite aux païens, ceux qui n'étaient pas éduqués ou qui n'ont pas grandi comme des juifs sous la loi. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure que Dieu faisait entrer des gentils, des païens dans l'assemblée, de plus en plus il y avait des conflits, surtout entre les races juives et grecques. Donc c'est pour ça qu'il donne ses instructions, et c'est bien pour nous aussi, parce que dans l'assemblée, surtout dans l'Église de Christ et son corps, les membres proviennent de différents arrière-plans et races et niveaux dans la société. Mais si Christ a payé leur dette, a versé son sang pour ceux-là, donc il n'y a pas de différence en ce qui concerne notre état devant Dieu, et c'est cet amour et cette unité qui est en Christ déjà que nous devons conserver, comme Paul dit ici dans Éphésiens chapitre 4, commençons dans le verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, voilà le mot amour, vous efforçant. D'où vient cet effort, si ce n'est l'Esprit lui-même, de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Pourquoi? Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voilà à quoi nous sommes donc appelés. Donc, comme il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul baptême dans le verset 5. Ce mot baptême, ce n'est pas le baptême dans l'eau, mais il s'agit du baptême du feu du Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à ce baptême qu'il a subi à la croix que nous sommes unis dans un seul corps. Ainsi, verset 6, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Quand il dit en tous, c'est dans le contexte, en tous ceux qui sont en Christ. Donc voilà ce qui est le fondement qui lie ceux qui sont dans le corps de Christ. Et pourquoi donc l'auteur ici dit persévérer dans cet amour fraternel. Christ n'est pas divisé. Et le corps qui est l'Église de Christ, le lien qui nous lie, c'est l'œuvre de Christ. Et c'est son esprit qui nous a appelés, voilà la vocation, qui nous a appelés et mis ensemble. Et c'est ainsi que nous partageons ce même amour. Donc voilà le mot Philadelphie, Philadelphos, qui est utilisé là dans le premier verset, persévérer dans l'amour fraternel. Ça, c'est le sens de ce mot. Dans la Bible, il y a en réalité 4 différents mots qui sont utilisés pour traduire le mot amour, mais dans le grec, différents mots. Par exemple, à part Philadelphie, qui a un de ces mots, ça c'est l'amour fraternel. Il y a aussi le mot Eros. Et déjà en entendant ce mot, ça vous donne déjà le sens. Ça décrit un amour qui est érotique, sensuel, et se réfère surtout à l'amour sexuel. Et un deuxième mot qui est utilisé dans les Écritures, c'est le mot grec storge, et ça fait référence à un amour familial. Et le genre d'amour qui existe surtout entre parents et un enfant ou entre les membres de la famille en général. Mais ce n'est pas ce sens qui est utilisé ici, Philadelphie. Ça, c'est l'amour de frère entre frères, surtout en Christ. Et peut-être le quatrième mot dont nous sommes plus habitués, c'est le mot agapé. Et ça, c'est un amour spécial. C'est un amour qui décrit surtout l'amour de Dieu envers ceux qu'il a aimé depuis l'éternité. C'est un amour particulier. Et la raison pour laquelle ce n'est pas utilisé ici encore, c'est parce que, bien vrai, nous sommes aimés. Si nous sommes aimés de Dieu, nous sommes aimés de cet amour agapé. Mais ici, il s'agit d'un amour fraternel, c'est-à-dire entre frères et frères qui se trouvent dans le corps de Christ. C'est le mot qui est utilisé ici dans Hébreux 3 et le verset 1. Donc, Philadelphie, ça vient de la racine philia. Et ce mot ancien est un amour surtout d'affection fraternelle, d'amitié, et néanmoins profond. Je ne veux pas minimiser le sens disant que agapé est plus important que ce genre d'amour. Un provient de l'autre. On ne pouvait pas aimer les uns les autres de cette manière profonde si ce n'était à cause de l'amour agapé de Dieu envers nous. Mais comment est-ce que cet amour fraternel se manifeste? C'est ainsi que nous voyons dans le verset 2, parce que le véritable amour fraternel ne respecte pas de personne pour dire, ah, mais j'aime celui-ci parce qu'il est beaucoup plus proche à moi que celui-là. Non. C'est pourquoi c'est écrit ici dans le verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité. Le sens de ce mot hospitalité, c'est dans le sens de recevoir les étrangers. Voilà le véritable sens du mot hospitalité. C'est facile de recevoir ceux qui sont comme nous. Mais ici, il s'agit dans le sens de recevoir des étrangers. Et non pas seulement ceux qui nous sont proches ou bien nécessairement de notre race, etc. Et c'est pourquoi je disais qu'au fur et à mesure que Dieu faisait entrer des étrangers dans l'assemblée, les appeler, et c'est devenu de plus en plus évident que oui, pour ceux-là, Christ aussi est mort. Il n'est pas mort simplement pour des Juifs, mais pour des pécheurs de toute race, de toute langue, de tout peuple. Et au fur et à mesure que Dieu les faisait entrer dans le corps de Christ, convertissant leur cœur et tournant leur cœur à Christ, à l'écoute de l'Évangile, alors c'était comme des étrangers maintenant que Dieu faisait entrer dans son corps. Voilà le sens de ce mot hospitalité. C'est une vertu importante et souvent commandée aux croyants dans les Écritures et aussi surtout aux dirigeants. Regardons quelques passages. Dans Romains chapitre 12, tout cela c'est l'amour fraternel, ça concerne chacun des élus que Dieu a choisi pour qui Christ est mort. C'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 12 et verset 10, par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints. Et voilà le mot, exercez l'hospitalité. Si nous voulons savoir ce que c'est exercer l'hospitalité, voilà la définition qui nous est donnée ici dans Romains chapitre 12, versets 10 à 13. Il y a aussi d'autres passages qu'on pouvait regarder, surtout dans l'épître de Tite, l'épître de Paul à Tite, le chapitre 1, et le verset 7 et 8, ça décrit un dirigeant dans l'assemblée, car il faut que l'évêque, l'ancien, verset 7, soit irréprochable comme économe de Dieu. Nous ne servons pas nous-mêmes, mais nous qui servons dans ce rôle de responsable, de dirigeant dans l'assemblée, nous sommes comme économe de Dieu. Donc pour ça, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porte un gain déshonnête, mais qu'il soit quoi? Hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors voilà le sens d'être hospitalier. Nous ne devons pas alors oublier de divertir des étrangers. Et en raison de ce commandement d'hospitalité, néanmoins, les croyants, quand c'est écrit de recevoir ceux qui entrent parmi nous, cela ne veut pas dire de les recevoir sans discernement, parce que nous savons qu'il y a des loups qui entrent souvent parmi les brebis et cherchent à dévorer les brebis. Donc, bien vrai, c'était quand c'est écrit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, mais il faut savoir aussi qu'il y a certains dont la Bible nous met en garde que si cela vient vers nous, mais qu'il vient avec une autre doctrine que la doctrine de Christ, donc nous ne devons pas les recevoir. Donc quand c'est écrit d'exercer l'hospitalité, c'est envers ceux qui se démontrent véritablement frères en Christ. Mais pour le reste, nous devons prendre garde, comme dans la deuxième épître de Jean. Il dit dans le verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. » Et s'il s'introduit dans nos milieux, quelqu'un comme ça qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair, c'est-à-dire pourquoi il est venu, ce qu'il a accompli en venant, et qui porte une doctrine étrangère, c'est écrit, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc nous ne devons pas raisonner pour dire, oh oui, mais la Bible dit qu'il faut être hospitalier, donc on doit le recevoir. Non. Verset 8, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quel est le fruit de notre travail? C'est de recevoir ceux pour qui Christ est mort. Et que lorsqu'ils sont emmenés au milieu de nous, de tout part, nous les recevons, quelle que soit leur race ou bien leur état dans la vie, puisqu'ils démontrent qu'ils sont véritablement des rachetés de Christ. Mais c'est écrit dans le verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Alors, en même temps que nous sommes appelés ici de ne pas oublier l'hospitalité, ici, il s'agit surtout de cette hospitalité parmi ceux qui sont reconnus comme frères en Christ et pas n'importe qui. Alors, comme je viens d'expliquer, le sens du mot hospitalité, c'est de recevoir même les étrangers et ceux qui sont peut-être d'autres arrière-plan que nous, mais emmenés par l'Esprit de se joindre à nous. Et la raison qui est donnée, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ici, nous pouvons nous rappeler surtout même de l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, un ange a apparu à Joseph et à Marie. Nous pouvons retourner même dans l'histoire d'Abraham et de Lot, où ils ont reçu des messagers de Dieu sans nécessairement discerner que c'était des anges, parce qu'ils ont apparu comme des hommes dans la chair, mais étant des messagers de Dieu. Pour moi, je comprends cela dans le sens du mot « ange » qui signifie « messager ». Quelle que soit la personne devant qui nous sommes. Nous ne savons pas peut-être qui ils sont, mais nous savons que Dieu envoie toute personne et fait que notre chemin se croise avec tous ceux avec qui nous nous entraînons dans cette vie. Donc nous devons savoir que c'est Dieu qui dirige nos pas en toutes choses. Et donc nous devons recevoir ce que Dieu amène envers nous. Et comme c'est écrit, quelques-uns ont logé des anges. Je me souviens, à travers les années que je prêche l'Évangile, certains qui viennent frapper à ma porte, et qui s'introduisent et qui me disent qu'ils ont entendu de loin le message que je prêchais et donc ils se sont approchés pour en entendre davantage et avoir plus d'instructions. Ceux-là, on les reçoit jusqu'à ce qu'ils soient prouvés peut-être qu'ils ont d'autres intentions, parce que il faut savoir que dans les ministères, on doit traiter avec des gens de toutes sortes d'intentions, de mobiles. Mais là, il y a des élus même que Dieu amène vers nous afin que nous les recevions. C'est comme ça que je comprends le sens de ce mot « ange » sans le savoir, mais qui sont véritablement élus de Dieu. Et donc, nous les recevons en tant que tels. Et puis, dans le même sens, où il dit, toujours dans le sens d'amour fraternel, que ce soit les étrangers qui viennent vers nous, ou bien, verset 3, ceux qui sont prisonniers. Et je crois qu'ici, c'est le sens, dans le sens de ceux qui sont enchaînés à cause de l'Évangile. Nous ne devons pas oublier cela. Et par amour pour l'Évangile, sont en prison. Mais même là, ce sont nos frères. Nous sommes encouragés alors à se souvenir d'eux et de ceux qui sont maltraités, sachant que c'est uniquement la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, que nous ne sommes pas dans la même situation. Je ne cesse de m'étonner. Depuis les années que le Seigneur me donne à prêcher cet évangile et vu l'opposition du monde contre ce message, que me voici aujourd'hui libre, libéré et avec cette liberté de pouvoir prêcher l'évangile. Pourtant, il y a d'autres dans différentes situations dans le monde qui sont liées aujourd'hui à cause de ce même évangile. Et lorsque j'entends parler d'eux, peut-être que c'est une question de prier pour eux, ou si je suis dans un lieu où je suis capable d'aller les visiter, de ne pas les oublier, de se souvenir d'eux, ou bien même d'écrire. À travers les années, j'ai eu à écrire certains qui sont en prison à cause de l'Évangile dans différentes parties du monde. Et ces lettres servent d'encouragement pour cela, parce que même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, néanmoins, cet amour fraternel domine. Et donc, ça fait partie de ce qui est écrit dans le verset 1. Persévérez dans cet amour fraternel partout dans le monde où les élus de Dieu se trouvent, parce que nous sommes effectivement d'un seul corps. Et puis, dans le temps qui reste, nous voyons la deuxième partie de cet amour qui est décrit ici, et il s'agit là de l'amour conjugal en ce qui concerne le mariage. Le mariage est honorable, parce que ça honore ce que Dieu nous a donné comme exemple de l'amour de son Fils pour son Église, c'est-à-dire cette épouse que le Père a donnée à son Fils. La Bible tient à un haut idéal la vie conjugale et surtout l'institution de la famille. Je dois dire de plus en plus que nous vivons dans la société et nous voyons que cet enseignement est érodé. Plus la société se corrompt, plus la vie conjugale est déchirée et plus même les foyers sont déchirés. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui n'est pas facile à prêcher aujourd'hui. Parce que partout dans le monde, l'idée qu'un homme va prendre une femme et rester attaché à cette femme durant toute sa vie est moins de moins connue, moins à moins connue. Le divorce domine. Je ne sais pas ce que c'est ailleurs dans le monde, mais je sais qu'ici aux États-Unis, 75% de mariages finissent en divorce. Parce que d'un côté, quand ça débute, le mari dit à la femme, « Oh, je t'aime, mais après un certain temps, voilà, je ne t'aime plus. » Ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit envers nous en tant que pécheur qu'il a racheté. Il ne divorce jamais un de ceux-là pour qui Christ a payé la dette. Donc, le mariage doit être honoré. Le mariage est honorable entre tous. Et quoique ça devienne de moins en moins vrai dans la société, dans son ensemble, néanmoins dans l'assemblée, ça doit être respecté parce que, comme je disais, c'est une image, c'est une illustration de la relation qui existe entre Christ et son Église. Je dois dire que malheureusement, de plus en plus, le mariage est déshonoré de nos jours, même par sa définition. On veut définir le mariage aujourd'hui comme une union entre deux personnes, mais ces deux personnes peuvent être deux femmes, ou bien ces deux personnes peuvent être deux hommes, et on appelle ça le mariage, non? Peut-être que c'est un lien civil qui, selon la loi, de plus en plus est approuvé, mais selon la Bible, le mariage a toujours eu lieu entre un homme et une femme, comme c'est écrit dans Genèse chapitre 2. Si vous voulez une bonne définition du mariage, il suffit d'aller dans Genèse chapitre 2, parce que, quels que soient les changements des temps, cette définition n'a jamais changé. C'est écrit dans le verset 24 de Genèse 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est ce que Christ a fait en quittant son père pour venir sur cette terre et payer la dette pour cette femme que le père lui a donnée. Et c'est ainsi que l'Esprit maintenant attire chacun pour qui Christ est mort, qui fait partie de ce corps qu'on appelle son épouse. Et les deux sont devenus une seule chair, unie en Christ. Voilà la définition du mariage. Et voilà pourquoi ça doit être respecté et honoré. Et donc, c'est pourquoi nous sommes avertis de garder le lit conjugal exempt de souillure. Je sais que dans ce contexte aussi, plus les païens entraient dans l'assemblée, les païens emmenaient avec eux des habitudes qui n'existaient pas nécessairement parmi les juifs. Et l'auteur ici est en train d'encourager ceux-là à ne pas suivre les habitudes dans lesquelles il vivait, où tout était permis en ce qui concerne l'impudicité ou l'adultère, mais que dans l'Église, maintenant, il devait avoir ce respect pour l'amour entre le mari et sa femme, et que le lit conjugal soit exempt de souillure, c'est-à-dire ne pas emmener n'importe quelle femme ou homme dans ce lit, comme les impudiques ou les adultères font dans le monde. Nous voyons ça dans la société, mais non pas dans ce que la Bible appelle le mariage. Donc, nous avons besoin de cet enseignement, surtout dans Éphésiens chapitre 5. Encore un exemple du mariage biblique. C'est écrit ici dans le verset 21 de Éphésiens 5, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Souvent dans les conflits, la femme va dire, « Non, mais il faut dire à mon mari qu'il doit m'aimer comme Christ a aimé l'Église. » Et le mari va réagir pour dire, « Non, mais il faut dire à la femme qu'elle doit être soumise. » Comme s'il va imposer la soumission. Non, tout est réglé par l'amour. S'il n'y a pas cet amour, il n'y a pas un mariage. Le mariage n'est pas simplement ce qui est écrit sur un certificat de mariage. Non, c'est dans le cœur, où deux sont unis dans le cœur. Et donc, voilà pourquoi le mariage doit être honoré. Je sais qu'il y a certaines situations qui sont difficiles, parce que le péché a tout confondu en ce qui concerne les relations entre les maris et les femmes et maris, et même dans l'assemblée. Pourquoi il y a des conflits? C'est à cause du péché qui existe dans le cœur. Mais néanmoins, en tout cela, nous sommes appelés à persévérer dans l'amour fraternel, non seulement dans l'assemblée, mais aussi dans nos foyers, honorés. Le mariage tel que Dieu l'a établi dans les Écritures. Et toujours regarder à Dieu de nouveau pour sa grâce. Comme je disais, ça prend la grâce de Dieu pour les pécheurs de vivre ensemble, que ce soit dans l'assemblée ou bien que ce soit dans le foyer. Mais ce qui est sûr, c'est toujours la grâce de Dieu qui prédomine et qui nous empêche de dévier de ce qui est clairement enseigné dans sa parole. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Amen.